Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Elle est née blanche en Afrique du Sud il y a 100 ans. Nadine Gordimer construit une œuvre littéraire de la rencontre à l'heure de l'apartheid. Censurée dans son pays, elle a partagé une autre conception de la société sud-africaine où le temps de la répression ferait place à celui de l'invention. L'itinéraire de Nadine Gordimer, c'est tout de suite dans toute une vie.
White South African is somebody who belongs to a separate group in the mind and in the spirit.
Un Sud-Africain blanc, c'est un habitant qui revendique par son état d'esprit, ses actions et sa philosophie politique son appartenance à un groupe racial séparé.
A white African, in my opinion, is someone who has committed him or herself to a non-racial South Africa.
Un Africain blanc, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas la ségrégation, qui affronte les conséquences de cet engagement et qui est donc prêt à se débarrasser de ses privilèges.
But I think that if people, if whites sincerely commit themselves to that and take some risks,
si les blancs prennent des risques dans la lutte de libération,
then they become white Africans.
Alors ce sont des Africains blancs.
Nadine Gordimer, l'archiviste de l'apartheid. Michel Pomared, Séverine Cassar.
As its very name suggests, the Union of South Africa lies at the southern tip of the great African continent.
Jean-Pierre Richard, vous êtes traducteur, mais vous êtes aussi un ancien responsable du mouvement français anti-apartheid. Quand Nadine Gordimer naît en 1923 en Afrique du Sud, dans quel état est le pays ?
C'est une colonie anglaise, britannique, donc exploitée surtout pour ses ressources minières, le diamant, le charbon, l'or. C'est l'un des principaux producteurs d'or à l'époque. Donc c'est une colonie, en fait, soumise aux lois coloniales, surtout à partir du Cap. Mais dans les années 20, il y a un clivage au sein de la communauté blanche entre ceux qu'on appelle les Afrikaners et qui descendent des protestants européens, pourchassés évidemment dans leurs pays respectifs, la Hollande, la France, l'Allemagne, qui ont fui là-bas. Et puis les descendants des Britanniques, ou les Britanniques eux-mêmes, qui s'installaient dans le pays, surtout autour du Cap.
Most of us farmers, for example, speak Afrikaans.
Extrait d'un film des années 50, à la gloire des Afrikaners et du folklore de leur pays d'origine, la Hollande.
We are proud of our traditions, and we like to keep them alive, as in our songs and dances.
Comme tous les Blancs, elle est venue d'Europe. Son père venait de Lettonie et il était bijoutier. Sa mère était juive venant de Cardiff.
Le traducteur Georges Laurie.
Elle fait partie de cette communauté juive qui a été bien accueillie dans les années 1920. Elle est née, elle, en 23 et bizarrement a été élevée dans une école catholique, dans un pensionnat catholique.
L'enfance, quand même, est assez particulière. Elle a une mère ultra possessive qui garde sa petite fille atteinte de tachycardie à la maison. Et qu'est-ce qu'il y a comme univers pour la petite Nadine Gordimer ? Des livres et des livres de littérature européenne.
elle a beaucoup insisté sur Proust. Et elle lisait le français dans le texte. Donc, elle s'intéressait aux livres, à la littérature mondiale. Elle vouait à Kafka une immense admiration et elle relisait Kafka tous les ans.
Elle lit beaucoup, beaucoup de choses. En fait, elle avait des livres, vous savez, comme tous les anglo-saxons, il y avait une bibliothèque à Springs.
Liliane Louvel, professeure de littérature britannique à l'université de Poitiers.
Donc, elle a lu beaucoup les grands anglais, Dickens, William Blake, Shakespeare, La Tempête, et puis les Russes, Tourgueniev, Tchekhov, parce que son père est d'origine russe, juive, émigrée, Kafka, elle est dans une société kafkaïenne ou kafkaesque, Conrad aussi, Maupassant, Joyce, Wolfe, donc tous ces gens-là, et surtout beaucoup de nouvellistes. C'est une très bonne nouvelliste, extraordinaire.
Je crois que j'ai commencé à écrire en me racontant silencieusement des récits, des conversations, des impressions sur le siège arrière de la voiture de mes parents pendant des voyages longs ou courts. Puis j'oubliais qu'enfant, on m'avait appris à ne jamais me servir d'une tasse dans laquelle avait bu notre servante africaine.
La base de tout ce régime colonial, c'est, je cite de mémoire, mais c'est 1913, je crois, avec ce qu'on appelle la loi foncière, Land Act, qui a permis aux Britanniques de mettre la main sur la quasi-totalité des terres agricoles, arables, exploitables du pays. Et c'est cette année-là que l'ANC de Nelson Mandela, évidemment, il n'était pas encore né, a pris naissance. Donc on est là tout à fait au début du XXe siècle, mais déjà le système, le futur système d'apartheid, qui est une ségrégation d'abord foncière, existait déjà, était là, si vous voulez, en germe.
Est-ce à dire, Jean-Pierre Richard, que l'enfance, l'adolescence et la jeune vie d'adulte de Nadine Gordimer, c'est déjà un avant-goût de ce que sera l'apartheid instauré en 1948? Elle vit à Springs, une ville minière qui est célèbre pour la veine d'or qui est exploitée, et elle est peu ou pas en contact avec les populations noires.
Non, tout à fait. Il y a déjà une ségrégation physique, si vous voulez, géographique, quand elle naît à Springs, dans un milieu petit bourgeois, Elle n'a pas de contact avec les Noirs, autre que par l'intermédiaire des nounous qui s'occupaient des gamins, des Blancs.
South Africa is the greatest gold producer in the world. Her position as such is unlikely to be affected. Nor is her importance in the diamond industry. Those stock exchange jitters have cut share prices by millions in the last few days. The fabulously rich earth will go on yielding its treasures.
Quand on considère les conditions de vie des mineurs dans les mines d'or, effectivement, c'était un esclavage à peine déguisé. Les fouilles à la sortie des mines pour être sûr qu'il n'ait pas avalé le pépite. Enfin, les conditions de vie dans les dortoirs, c'était vraiment sordide. Et c'était des contrats de 11 mois, ce qui obligeait ensuite les travailleurs à revenir et à renouveler les contrats. C'était une forme extrêmement dure de vie. Et ça, elle en est d'emblée consciente. Elle a écrit plusieurs nouvelles là-dessus. On sent que ça l'a marquée.
Tout autour de nous, les puits s'enfonçaient et l'or en remontait. Nous avions pour tout horizon une frise de pyramide artificielle de sable cyanuré aux allures égyptiennes, qu'on appelait des potoirs. Ce n'était en effet que de grands tas de débris jetés à la surface après que le minerai aurifère avait été débité au fond, remonté, concassé et lavé pour en extraire le trésor. À l'école, j'ai noué une longue et étroite amitié avec la fille d'un responsable de l'une des mines les plus anciennes et les plus importantes. C'est ainsi que j'ai franchi la frontière tacite entre les mines et la ville et que j'ai découvert l'habitat, la vie familiale et les usages des gens de la mine.
Donc elle a déjà connu, oui, petite, cette discrimination. Mais ce n'était pas encore inscrit dans la loi autant que cela a été à partir de 1947, avec l'arrivée du régime raciste des Afrikaners.
Jean-Pierre Richard, dans quel milieu évoluait Nadine Gordimer à l'époque ?
Ben, le milieu juif n'était pas très favorable aux lois racistes, on peut l'imaginer, sans pour autant que ses parents aient été militants. Il existait depuis quelques années effectivement des groupes dissidents de blancs anglophones, mais encore très très marginaux. C'était un embryon de résistance aux lois d'apartheid qui se mettaient en place. C'est surtout à partir des années 60, dans le sillage de la lutte de l'ANC, que des organisations comme le Black Sash, qui malgré son nom, en anglais ça veut dire l'écharpe noire, mais en fait c'est une organisation de femmes blanches qui étaient défavorables à la discrimination raciale, à l'apartheid, et qui ont eu une véritable influence sur l'évolution de l'histoire en Afrique du Sud, sans pour autant être la force dominante dans le combat anti-apartheid, mais c'était un appoint au sein de la communauté blanche important. Donc Nadine Gordimer avait autour d'elle déjà des oppositions aux lois racistes, mais n'était pas vraiment inscrite encore dans une mouvance qu'on peut appeler militante. C'est plus tard que c'est venu chez elle. Il y a une radicalisation chez elle qui s'est faite autour de la lutte de l'ANC.
Les Noirs réclament le droit de vote sur la base d'un homme, une voix. Ils veulent leur indépendance politique. À la question de savoir si les Noirs peuvent s'épanouir dans ce pays sans en chasser les Blancs, je réponds que nous avons été très clairs dans notre déclaration. L'Afrique du Sud est un pays multiracial. Il y a de la place pour tout le monde. Dizokwenza nombi kanga, dizokwenza nombi kanga, dizokwenza nombi kanga, dizokwenza nombi kanga. Tu lu 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 du tu, wale lomtan, tachengo meva, aingo me, itolofi, wale lomtan. Jacqueline Deras, vous êtes une ancienne militante anti-apartheid. Comment vous avez vu l'engagement de Nadine Gordimer pendant toutes ces années où l'Afrique du Sud était discriminée ?
Moi, vous savez, j'ai découvert la réalité de l'apartheid, bien sûr par des documents politiques, mais aussi par la littérature. Et Nadine Gordimer, pour moi, a été une révélation. Quand j'ai lu la première fois Fille de Burger, j'ai découvert l'existence de Bram Fischer. Bram Fischer, c'était un très grand avocat, c'était la grande voix du barreau sud-africain, un très grand avocat, mais un très grand avocat qui est devenu communiste. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et l'héroïne, c'est la fille de Burger. Elle raconte les visites à son père, des choses très simples alors qu'il est tenu en prison, qu'il va mourir parce qu'on ne soigne pas son cancer. Et puis les retours sur cette vie familiale qui était une vie de privilégiés, de super privilégiés. Et dans la manière dont elle raconte ça, on a l'impression que pour Bram Fischer et pour sa famille, cet engagement se fait... Alors, un engagement ne se fait jamais naturellement, mais tout simplement, en tant qu'avocat, le régime d'apartheid est tout simplement insupportable. C'est pas possible. Et donc, elle décrit cet engagement avec... une extrême simplicité et à la fois toute la complexité de vivre ça. Son père en prison, c'est une très grande bourgeoise sud-africaine, blanche, donc considérée comme traître, doublement traître parce que ils ont rejoint la cause anti-apartheid et surtout parce que son père était un responsable du Parti communiste sud-africain. Donc, mais Nadine Gordimer n'a jamais d'emphase pour parler de choses aussi graves que cela. Son style est tout sauf lyrique. C'est un style, je dirais, mais c'est pas du tout péjoratif, plat. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Et l'émotion de ces personnages, elle n'appuie pas dessus. Elle raconte une histoire et elle raconte merveilleusement ces histoires. C'est pour ça que j'aime beaucoup la prose de Nadine Gordimer.
À vivre séparés de force, les Blancs et les Noirs se détruisent moralement. En vivant ensemble, il n'est pas impossible que nous parvenions à échapper à la domination blanche, à la domination noire et à tous les autres masques qui nous dissimulent les uns des autres pour découvrir l'identité de notre humanité.
Jean-Pierre Richard, vous parlez de la radicalité de Nadine Gordimer. Quelle forme prend cette radicalité ? On sait qu'elle a été sympathisante de l'ANC, d'autres disent qu'elle était militante. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement ?
On ne sait pas, en fait. Il a été dit après sa mort qu'elle était militante de l'ANC depuis 1959. Bon, elle n'a jamais été clairement, ouvertement militante de l'ANC, mais elle avait des sympathies évidentes envers ce mouvement. C'était très risqué pour elle d'afficher un soutien à l'ANC. Les dirigeants de l'ANC étaient emprisonnés en tant que terroristes. Donc elle a joué de prudence tout en soutenant, je pense, de façon clandestine, le mouvement de Nelson Mandela.
Comme pour beaucoup de gens, mon opposition à l'apartheid ne procède pas seulement d'un sentiment de justice, mais aussi d'un refus personnel, égoïste et absolu de me faire dicter le choix de mes amis et limiter la gamme de mes relations humaines.
Elle a été censurée dans certains de ses textes, mais qu'est-ce que la censure avait à interdire dans ces textes qui ne sont pas des brûlots politiques ?
Ben, c'est surtout les premiers. Dans Burgers Daughter, il a été interdit quelques mois. Et dans les autres, c'était les relations noires-blanches. C'était interdit.
Oui, il y avait une loi qui s'appelait Immorality Act, oui, qui punissait de 7 ans de prison les relations mixtes.
C'est ça. Il ne fallait pas que l'on se mélange. Il fallait dire qu'il y avait plus de 20 millions de noirs et 4,5 millions de blancs. Hein. C'est pour ça qu'on les a mis dans des bantoustans, qu'on les mettait dans les shanty towns, les townships. Et la grande menace, c'était la femme blanche avec l'homme noir. Et que ce soit Coetzee, Prink, Nkoudema, ils ont tous décrit ça. Donc, censuré.
Mais il y a une nouvelle, Nadine Gordimer n'est pas dans le lyrisme, elle n'est pas dans le déchaînement des passions. Il y a quelque chose d'assez neutre et retenu dans ces descriptions.
Oui, c'est très allusif, très... c'est ce qui nous semblerait dans les premiers romans que j'ai lus, là, d'elle, Occasion for Loving et tout ça, je trouvais ça assez banal, on va dire, ces rencontres, ces histoires et tout. Mais si on rajoute le contexte, on voit que c'est pas si banal que ça. Vous savez, on était à l'époque où quand il y avait un pont, il y avait un côté du pont pour les Blancs et un côté du pont pour les Noirs.
Oui, pareil pour les bancs dans les jardins publics.
Ah bah oui, bien sûr. Mais le pont, moi, cette image m'a toujours frappé. Un pont séparé en deux carrément. Blancs only. Et ils sont même pas Noirs, ils sont non-whites. C'est fou.
J'ai délimité ma présence dans mon pays natal à l'intérieur d'une minorité au sein d'une minorité. Je vais réduire encore mes prétentions. Une blanche dissidente, un écrivain blanc.
C'est surtout au niveau de son écriture que je parlerai de radicalisation. Au début, son écriture est alambiquée. Je lui ai dit en face et elle n'a pas dit non. Et on a remarqué au fil des années que son écriture devenait de plus en plus offensive, combative, épurée. Et je crois que c'est en tant qu'écrivaine qu'elle s'est engagée de plus en plus. On le voit au niveau de son écriture.
Rien que continuer à vivre ici revient à accepter dans une certaine mesure l'apartheid, le verrouillage des réactions, la cautérisation du cœur humain. Nos enfants grandissent en trouvant naturel d'être bien habillés et bien nourris, tandis que les petits noirs sont loqueteux et décharnés.
Lilian Nouvel, est-ce qu'on peut s'arrêter sur un personnage dont on a peu parlé, c'est le paysage sud-africain.
Ah oui.
Le désert, les hautes herbes, les arbres et les insectes.
Et la ferme africaine, ça, je tiens à en parler de ça aussi. Alors les insectes, ben, ils sont partout. Et les insectes ont un rôle de travail des mandibules secrets, comme dans la nouvelle La Termitière. Et la Maison Blanche est sur une termitière et il faut les faire partir parce que sinon la maison va s'écrouler petit à petit à partir de ces mandibules qui font leur travail et qui s'immiscent partout, invisibles, mais bien là. C'est une nouvelle extraordinaire. C'est une de ses premières nouvelles aussi. Et puis, dans une autre nouvelle qui s'appelle Something Out There, il y a un babouin échappé qui fait peur aux banlieues blanches. Il y a cette menace, c'est toujours la menace qui est décrite de cette manière. Et je parlais de la ferme africaine, hein, de, je ne sais pas si vous avez lu The Conservationist, hein, qui est un, ça il faut absolument lire ce livre, il faudrait peut-être commencer par ça même, qui est allégorique, qui est l'histoire qui est dans la grande tradition de la ferme africaine, hein, c'est le microcosme où se trouvent réunis les blancs et les noirs, et où ils doivent vivre ensemble. Et là, dans The Conservationist, pourrait dire l'écologiste, c'est en 1974, elle a eu le Booker Prize pour ça, Mehring, qui est d'héritage bourg, donc afrikaner, a acheté cette ferme comme un jouet pour y passer ses week-ends. Seulement, il y a une grande... la rivière envahit tout, une inondation majeure, et sur cette ferme vivent des Indiens, qui tiennent un magasin, les Noirs qui traversent la terre, et lui. Donc on a vraiment une illustration de la société sud-africaine, puisque les Indiens ont été amenés pour travailler le sol, et Gandhi était sud-africain. Donc ils sont surtout commerçants. Et la terre rend le cadavre d'un Noir, le porte à la surface, un Zoulou, et c'est l'apocalypse, et en même temps la révélation de ce corps à qui appartient la terre.
La romancière franco-rwandaise Beata Umumbeyi Meres.
Elle décrit beaucoup les paysages, alors c'est une nature qui parle aussi des sentiments des gens, qui peut être une nature qui abrite des secrets, qui, je pense notamment à des nouvelles où elle parle de couples mixtes, d'hommes blancs et de femmes noires qui ne peuvent se rencontrer qu'en secret, qui ne peuvent se retrouver pour vivre leur passion qu'en secret. Et c'est la campagne environnante qui va les abriter. C'est une nature qui peut être dangereuse aussi. C'est une nature où on trouve des corps, des morts et on ne sait pas comment les enterrer. Enfin, elle en a fait un personnage qui raconte autant la société que peuvent le faire les hommes et les femmes qui y vivent et qui y luttent.
Elle parle elle-même d'une écriture qui est motivée par la spéléologie du doute. Et je crois que c'est une formule qui résume bien son attitude par rapport à l'écriture. On a toujours l'impression de tourner autour du sujet principal, par exemple les rapports entre les Noirs et les Blancs sur le plan sexuel, hein, ou la façon dont un jeune blanc peut s'engager dans la lutte militante anti-apartheid. Tout ça est toujours un peu indirect. Elle prend les thèmes les plus importants, mais avec une distance du point de vue d'un blanc qui se pose des questions. Donc le doute est toujours là. Et on retrouve un peu chez elle cette prudence, engagée quand même, militante, mais prudente, qu'on trouve aussi chez Camus.
On posait souvent à Nadine Gaudemel la question, comment est-ce que vous faites pour « write about », à propos de...
Françoise Kral, professeure de littérature britannique à l'Université de Nanterre.
Et elle aimait faire la distinction suivante, c'est que finalement, lorsqu'on écrit autre chose que la fiction, lorsqu'on est un historien, lorsqu'on écrit des essais, on écrit sur. Tandis que lorsqu'on écrit de la fiction, on écrit à partir de l'intérieur et on écrit avec. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans son œuvre, c'est sa capacité à se glisser dans différents personnages, donc que ça soit dans certains romans, mais surtout dans certaines nouvelles. On a des personnages qui peuvent faire penser à Godem. On a Hattie Telford dans Comrades du recueil Jump. On a plusieurs personnages comme ça, mais on la voit aussi se glisser dans des enveloppes complètement différentes, épouser un spectre très large de voix, de positions sociales et raciales dans ce paysage d'Afrique du Sud. Mais ça pose aussi une question, et je dirais une question un petit peu éthique, c'est quand on est une femme blanche, comment est-ce qu'on va raconter de l'intérieur l'histoire de l'Afrique du Sud vécue par les Noirs? Et ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu le ventriloquisme en littérature, éviter le parler à la place d'eux. Et donc ça, c'est quelque chose qu'elle aborde par un autre détour, qui est celui de l'incommunicabilité, c'est-à-dire que dans certaines nouvelles, et là je pense notamment à la nouvelle Comrades, qui est le titre de cette nouvelle, cette femme blanche se rend à un meeting et lorsqu'elle retourne dans sa voiture, elle voit un groupe de jeunes venir vers elle, de jeunes hommes noirs, et elle est prise finalement dans une sorte de situation un petit peu schizophrène où les stéréotypes raciaux lui reviennent en mémoire. Elle s'engage à un engagement politique qui l'amène à faire ce pas de l'autre côté de la frontière raciale, et pourtant elle est assaillie de doutes, de peurs. Elle est en fait prise par une certaine forme de hantise, et si elle s'était trompée, et s'il y avait danger. Et donc, toute cette nouvelle, c'est une espèce de dialogue intérieur entre cette femme et le discours racial qui a hanté Nadine Godem toute sa vie, puisqu'elle raconte elle-même à quel point elle a été élevée dans ce discours-là et à quel point on ne peut pas faire comme si les stéréotypes n'existaient pas. Donc, il y a une espèce de travail conscient pour s'en tenir au fait d'être comrade et de ne pas avoir de camarade que le nom, mais d'avoir finalement des actes à la hauteur de ses paroles. Et dans la suite de la nouvelle, elle ramène ces jeunes gens en voiture, elle les ramène chez elle, elle leur offre à manger et elle est prise finalement dans ce dilemme qui est celui d'une blanche en Afrique du Sud. Elle a une domestique qui est noire et donc elle va à la cuisine ramener de la nourriture, mais lorsqu'elle ramène de la nourriture, c'est la nourriture préparée par la femme noire. Et donc l'acte de générosité, l'acte d'ouverture est paradoxalement doublement codifié puisque c'est aussi une façon, et là on peut faire une analyse presque marxiste de cette nouvelle, c'est justement une façon de prendre les fruits, elle sert des fruits sur une corbeille, c'est une façon de prendre le fruit du travail de la domestique noire, puisqu'elle amène elle-même le plateau comme si c'est elle qui l'avait préparé.
I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony.
En 1991, Nadine Gordimer reçoit donc le prix Nobel de littérature pour, je cite, son œuvre épique qui a rendu à l'humanité d'éminents services. En quoi est-ce que son œuvre était épique?
C'est épique parce que elle raconte l'histoire d'une nation, un peu comme un barde. Ces personnages, avec toute leur modestie et toute leur simple humanité, sont en fait des héros qui ont apporté leur pierre à la construction de cette nation sud-africaine qui est encore en devenir, bien sûr, hein, parce que on le voit bien aujourd'hui avec la xénophobie rampante, avec des tas de choses. Mais voilà, donc bien sûr que son œuvre est épique. Nadine Gordimer, c'est le barde qui est annonciateur d'un monde nouveau. Mais pas un barde aveugle, pas un barde qui va gommer les défauts de ses héros. Hein, ces héros sont des héros parce qu'ils sont humains, parce qu'ils sont bien sûr plein de... ils font des choses extraordinaires, mais ils font aussi des erreurs, ils ont aussi des doutes, ils ont aussi... C'est ça qui est, que Nadine Gordimer transmet dans son œuvre. Et je trouve que Nadine Gordimer, oui, c'est vraiment un très grand auteur sud-africain, et il faut relire Nadine Gordimer aujourd'hui, parce que ça, moi j'ai fait cette expérience, hein, et j'ai été très étonnée en disant, mais mon Dieu, comme elle avait perçu toutes les montagnes qu'il allait falloir franchir et qui sont loin d'être franchies pour construire cette nouvelle Afrique du Sud.
Vous parlez de héros dans ces romans, mais est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt de héroïnes ?
Si, parce que la plupart du temps, ce sont des femmes. Hein, je pense à Vera, justement. Vera, c'est une héroïne dans la mesure où elle a été militante anti-apartheid, qu'elle prend la défense des Noirs qui réclament leurs terres, etc. Hein. Elle va dans les squats, elle va dans les bidonvilles, bon, elle va dans les zones rurales. C'est là où elle se fait agresser, d'ailleurs. Mais Vera, c'est pas une militante hors sol. Vera, elle a des problèmes avec son mari, elle a des problèmes de cœur, elle a des problèmes avec sa fille. C'est une femme dans toute sa complexité, et voilà, et qui vit en Afrique du Sud. Et Vera, elle se dépatouille avec tout ça. Et bien sûr que c'est une héroïne, mais c'est pas une héroïne, comment dire, je sais pas. C'est pas une Jeanne d'Arc, quoi, si vous voulez. C'est une femme ordinaire, sud-africaine, qui s'engage et qui scoltine la vie de tous les jours. Et ça, Nadine Gordimer sait le dire magnifiquement.
J'habite la ville blanche de Johannesburg, la plus grande métropole d'Afrique du Sud. Autour d'elle, surtout à l'ouest et au nord, se trouve une autre ville, la Johannesburg noire. Cette image nette en noir et blanc n'est qu'un peu estompée aux lisières par la présence de petites communautés métisses et indiennes, séparées elles aussi, à la fois l'une de l'autre et du reste. On voit évidemment des Africains dans chaque habitation de la ville blanche, car les domestiques vivent sur place et chaque immeuble dispose d'un logement pour ses employés, dans un bâtiment séparé de celui des Blancs. Les Africains instruits appellent cette existence d'arrière-cour « viande pour chien vivante ». Vivre plus près des chenils et des dépendances que des humains.
Jean-Pierre Richard, pour l'ancien responsable de la lutte anti-apartheid que vous avez été, est-ce que pendant toutes ces années de lutte, vous avez entendu parler des textes de Nadine Gordimer ? Autrement dit, qui lisait Nadine Gordimer pendant l'apartheid ?
Personne en Afrique du Sud. Bon, je schématise, je caricature. Mais c'est un écrivain qui est connu, qui est lu, qui est publié à l'international. Ses livres étaient publiés d'abord à Washington, à Londres, à Paris. Mais en Afrique du Sud, la minorité anglophone, qui représente 40% des Blancs à peu près, ne lisait pas Gordimer. C'est ça le paradoxe. Elle était très connue dans le monde, mais pas en Afrique du Sud. Ou moins en Afrique du Sud que dans le reste du monde occidental.
Beata Mbeki-Meres.
Au départ, moi, je vais chercher chez Nadine Gordimer une connaissance, une compréhension de l'Afrique du Sud, d'autant plus que son œuvre s'étend sur de très nombreuses années et qu'elle, quelque part, elle recouvre toute l'histoire, elle suit l'histoire de l'Afrique du Sud. Je vais chercher la façon dont elle a pu raconter les relations entre les Noirs et les Blancs, l'apartheid, les personnes qui participaient, qui en bénéficiaient ou qui en souffraient ou qui luttaient contre l'apartheid. Et je trouve chez elle un autre élément que je ne m'attendais pas à trouver, qui est la question des relations entre les hommes et les femmes. Et donc là où j'étais quelque part, comme beaucoup, je m'étais intéressée à Nadine Gordimer, suivant aussi l'image qu'on avait d'elle, d'une militante contre l'apartheid. Dans un second temps, je vois vraiment l'œuvre littéraire dans laquelle le militantisme n'est pas central.
En fait, vous ne trouvez pas que le tour de force de Nadine Gordimer, c'est justement d'entrer dans l'intime?
Absolument.
L'intime du couple, l'intime de la maison, l'intime de la famille, pour raconter l'enfermement qu'il y a dehors. On ne peut pas rencontrer le noir, le métis ou l'indien, mais on ne peut pas rencontrer finalement l'autre qui est son mari, parce qu'il y a aussi un enfermement dans la maison.
Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle va surtout raconter des personnages. Elle va raconter ces gens. Elle va raconter beaucoup les blancs libéraux, les militantes et les militants, en montrant leurs difficultés, leurs tensions, les incompréhensions, et puis parfois leur lâcheté aussi, quoi. Et puis évidemment, il y a aussi des personnages comme le personnage principal, qui est le conservateur, qui lui est quelqu'un qui n'est pas du tout politisé, mais qui en même temps, ça l'arrange que rien ne change, quoi. Et c'est en rentrant dans l'intimité, en poussant vraiment la porte de la cuisine, de la chambre, qu'elle nous donne accès à... Alors, j'aime pas utiliser l'expression de l'âme du peuple, parce qu'elle dit elle-même qu'elle, dans un premier temps, elle ne considère pas qu'il y a vraiment de peuple sud-africain, mais en tout cas qu'elle nous amène à comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des gens, et dans leurs livres également.
Très souvent, on a des personnages qu'on découvre.
François Scroll.
Ils sont posés par le biais de pronoms. Mais on n'a pas tout de suite le nom, on n'a pas tout de suite l'identité, que ça soit en termes de genre, d'âge, de race. Et ça, c'est très intéressant parce que dans l'Afrique du Sud, lorsque quelqu'un se présente dans ce contexte de l'apartheid, il est immédiatement identifié comme blanc et comme noir. Et donc, dans la nouvelle dont on parlait, comme Red, on n'échappe pas à ce que l'on est, c'est-à-dire une femme blanche, malgré ses convictions, malgré son discours. Or, dans ses œuvres et dans la littérature, on a un petit peu la liberté de faire avec les mots, de créer, de mettre en place une espèce de zone tampon, une espèce de no man's land, où les visages, les identités se dévoilent petit à petit. Et ce qu'elle fait assez fréquemment, c'est qu'elle retarde le moment du dévoilement. Et donc, on rencontre des personnages sans savoir si c'est un homme, une femme. Parfois, on sait si c'est un homme ou une femme, mais on ne sait pas tout de suite si la personne est noire ou blanche. Et donc, ça permet de faire cette fameuse transgression, c'est-à-dire de créer au sein du récit un espèce de no man's land, de zone tampon où la rencontre, qui n'est pas possible à l'extérieur dans le domaine public, qui est possible parfois dans des espaces privés, eh bien à travers le langage, on peut aussi retrouver un espace intermédiaire où finalement l'anonymat des pronoms permet une rencontre, alors non seulement entre le protagoniste et les autres personnages, mais au-delà de ça, entre Gaudema elle-même et des personnages, parce que finalement, Gaudema, elle s'est aussi appris, elle-même, à travers ses œuvres, à rencontrer l'autre qu'elle n'avait pas le droit d'aller rencontrer de l'autre côté de la frontière raciale.
Jean-Pierre Richard, un mot au traducteur que vous êtes. Comment est-ce que vous pourriez définir l'écriture selon Gordimer ?
L'éditeur Albin Michel m'avait demandé de faire un essai de traduction pour l'un de ses premiers livres à Nadine Gordimer, Le Conservateur. Ça a été publié, je crois, dans les années 50. Ça a paru en français en 1974. Et j'ai sué sang et eau pour traduire ce texte. Des phrases très longues, très compliquées. On ne comprenait pas vraiment de quoi elle parlait. En fait, c'était quelqu'un qui était très attaché aux coutumes zoulous. C'est un blanc qui parle, mais voilà, on était dans une sorte d'ethnicisme. Et moi, je me suis... j'ai pas été accepté parce que son style me paraissait vraiment très, très compliqué. C'était excessivement difficile. Et plus elle a avancé dans son œuvre, plus son style devenait lapidaire. Et je trouve que l'un de ses plus beaux romans est écrit dans ce nouveau style. C'est Un amant de fortune. En anglais, c'est The Pickup. L'histoire d'une blanche qui prend un jeune autostoppeur, un noir, et qui devient son amant. Un texte publié en 2001. en français. Donc voilà, il y a une évolution de l'écriture de Gordimer qui fait qu'elle est passée d'un style proustien, très compliqué, inspiré peut-être des auteurs du 19e siècle en Angleterre, à une écriture beaucoup plus rapide, des phrases courtes, effectivement offensives.
Il était une fois, dans une maison, dans une banlieue, dans une ville, un homme et sa femme qui s'aimaient beaucoup et qui vivaient très heureux pour toujours. Ils avaient un petit garçon et ils l'aimaient beaucoup. Ils avaient souscrit une assurance médicale privée, payé une taxe pour leur chien, étaient assurés contre l'incendie, les inondations, le vol et faisaient partie de la société de surveillance mutuelle du quartier qui leur avait fourni une plaque pour le portail sur laquelle on lisait « Avis aux amateurs » en travers de la silhouette d'un éventuel intrus. Comme l'homme était masqué, nul ne pouvait dire s'il était noir ou blanc, ce qui prouvait que le propriétaire n'était pas raciste.
11 février 1990, Nelson Mandela est libre après 27 ans de prison.
Avec près de 3 heures de retard, Nelson Mandela apparaît enfin au balcon de l'hôtel de ville du Cap. L'impatience est à son comble pour les milliers de sympathisants de l'ANC qui s'entassent sur la place. Des troubles viennent d'éclater alentour, faisant un mort et plusieurs blessés. Camarades, amis sud-africains, je vous salue tous au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté pour tous. Je me tiens ici devant vous, non pas en tant que prophète, mais en tant qu'humble serviteur de vous, le peuple. Votre peine et vos sacrifices héroïques ont rendu possible ma venue ici.
Est-ce que, pour vous, l'œuvre de Gordimer, c'est une archive de l'apartheid ?
Oui, tout à fait. C'est pas la seule, mais c'en est une. Surtout du point de vue de la conscience que des Blancs pouvaient avoir de l'intérieur, si vous voulez, de ce régime. C'est toujours des questions que se posent les Blancs dans les romans de Gordimer ou dans ses nouvelles. Donc c'est un point de vue limité, mais très fouillé. Donc de ce point de vue, oui, c'est une archive. Il faut la compléter par les textes politiques, Nelson Mandela ou d'autres, Walter Sisulu, mais ça fait partie, oui, des archives du régime de l'apartheid, oui, et de la lutte contre ce régime raciste.
Nelson Mandela était sorti de prison le poing levé. Il devient président sur un pas de danse. Tout un symbole pour une transition en douceur et le début d'une nuit magique.
J'ai commencé à lire Nadine Gordimer au début des années... fin des années 90, début des années 2000.
Beata Mumbai Meres.
J'étais étudiante et je découvrais quelque part les littératures afro-caribéennes et j'en avais besoin à ce moment-là parce que quelque part, quand j'étais au Rwanda, j'avais été surtout nourrie de littérature occidentale, française notamment. Et c'était un besoin pour moi à ce moment-là, dans une construction identitaire. Alors moi, j'ai commencé le tout premier texte d'elle que j'ai lu, je crois que c'était peut-être Le Conservateur. Et j'ai ensuite lu des nouvelles. Et assez rapidement après, j'ai découvert qu'elle avait écrit de nombreux textes, des essais, notamment où elle parlait de littérature, et notamment d'auteurs africains dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc, elle m'ouvrait tout un champ de réflexion, de découverte. Et puis, il y avait aussi la question de l'Afrique du Sud qui, moi, m'interroge. Je ne suis jamais allée en Afrique du Sud, hein. Mais pour moi, 1994, c'est une année où, quelque part, il y avait deux histoires de l'Afrique qui se racontaient en même temps. Il y avait le génocide contre les Tutsis, que je venais de vivre. Et c'était les élections en Afrique du Sud et quelque part, une très belle histoire que le monde avait envie d'entendre, avait envie de voir avec l'arrivée de Mandela au pouvoir. Il y avait ces deux histoires de l'Afrique qui ne pouvaient pas se rencontrer et c'est peut-être ce que j'ai été chercher dans un premier temps dans la lecture de Nadine Gordimer, c'était essayer de comprendre quel était ce pays, qu'est-ce qu'il avait traversé et pourquoi ce moment climax de 94 était tellement important dans la conscience du monde et dans la conscience de l'Afrique. Et d'ailleurs, il y a les écrivains africains qui ensuite sont allés au Rwanda pour écrire, pour participer à un projet qui s'appelait Rwanda écrire par devoir de mémoire, disaient pour la plupart, pour nous, le printemps 94, c'était un moment de libération, de soulagement. Enfin, l'apartheid était terminé en Afrique du Sud et ça nous apportait une certaine fierté quelque part. Et on n'avait pas tellement envie de regarder ce qui se passait au Rwanda, qui était l'exact opposé de l'histoire qu'on avait envie d'entendre et dont on avait envie de se féliciter.
Asimbonanga manjela tina la pe kona la pe seli kona.
Georges Lory, toute la période où écrit Nadine Gordimer, c'est les années d'apartheid, mais elle connaît aussi le post-apartheid, puisque Nelson Mandela est libéré en 1990, 1994, il est élu président de l'Afrique du Sud. Comment est-ce qu'elle réagit à cet avènement d'une nouvelle Afrique du Sud et quel est l'impact de cet avènement dans son écriture ?
C'est des questions qu'on lui pose en disant « Mais après l'apartheid, qu'est-ce que vous direz ?» Elle dit « Mais le combat continue. » Contre l'oppression des femmes, contre la violence, contre le massacre de l'environnement en Afrique du Sud. Donc, de ce point de vue-là, elle a continué à se battre. Elle a accueilli, évidemment, l'avènement de Mandela avec beaucoup de joie. Et puis, petit à petit, elle s'est mise à haïr Zuma. Jacob Zuma, qui est donc celui qui a succédé à Mandela en 2009, elle n'a plus adhéré à l'ANC, elle l'a même pris en grippe.
Avec raison, on pourrait dire.
Tout à fait.
Vu le pédigré du président sud-africain, qui aujourd'hui est poursuivi pour corruption par des firmes françaises, étrangères, et la liste est infinie.
Oui, c'est une liste très impressionnante. Et Zuma, finalement, n'a pas été encore condamné vraiment pour cela. Il était condamné pour des faits annexes, mais c'est vrai que c'est une anguille. Oui, il est pas très regardant sur les finances publiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, il s'est entouré de gens, notamment indiens, extrêmement peu recommandables.
Parce que ce qu'elle a vécu quand même, c'était l'avènement d'une nouvelle Afrique du Sud, mais il y a eu une énorme déception après le mandat de Nelson Mandela. Thabo Mbeki, son successeur, est dans le déni du fléau du sida qui ravage l'Afrique du Sud. Comment réagit Nadine Gordimer à ce nouveau fléau ?
Ça l'a beaucoup peiné parce que Thabo Mbeki était un esprit délié, un professeur d'économie, enfin quelqu'un de... Mais sur ce plan-là, il a pris l'oreille de quelques savants américains qui disaient qu'il n'y avait pas de lien entre séropositivité et le développement de la maladie, que c'était dû à la misère, d'où ses ennemis de dire supprimons la misère, on supprimera le sida. Donc, oui, il était très peiné pour Thabo Mbeki, mais qu'elle respectait par ailleurs. En revanche, Zuma, elle ne le respectait pas. Et son dernier roman est extrêmement virulent contre Zuma.
Nadine Gordimer, interviewée en 2002.
Quand on lit vos premiers livres, vos romans d'il y a quelques années et vos romans actuels, on a l'impression que vous écrivez de plus en plus comme en état d'urgence. Comment vous l'expliquez ?
I think it's exactly the reverse.
À mon avis, c'est exactement le contraire.
During the apartheid,
oui, parce qu'à l'époque de l'apartheid, le conflit était évident.
Was so obvious.
Le fait d'être blanc dans ce pays-là et d'être engagé dans la lutte pour les Noirs, c'est ça qui crée l'état d'urgence pour les écrivains. On ne savait jamais ce qui allait nous arriver à nous ou à nos amis. Chaque fois que j'écrivais un livre, je ne savais pas s'il serait lu dans mon propre pays. Voilà pourquoi j'étais alors dans l'urgence. Maintenant, c'est bien plus calme. Il n'y a plus de pression, ni sur la société, ni autour de moi. Des tas de choses nouvelles et fantastiques se produisent tout le temps. Des frustrations nouvelles émergent, auxquelles nous n'avions pas pensé. Des joies inattendues aussi. Et moi, j'ai l'impression que je peux en parler et en dire tout ce que je ressens maintenant.
C'est quelqu'un qui est toujours dans ce questionnement. On ne peut pas l'accuser d'être suiviste ou...
Jean-Pierre Richard.
Passive. L'un de ses derniers romans, je crois publié en 2013 en français, « Vivre à présent », raconte l'histoire d'un couple métissé, un jeune blanc, mi-juif, mi-chrétien, qui a épousé une Zoulou, mais au temps où c'était interdit, il l'a épousé en secret. Ce sont deux vétérans de l'ANC et ils se retrouvent à nouveau en 1994 à Johannesburg, au moment de la libération, si vous voulez, du régime. Et là, ils se posent des questions. Et elle a toujours continué cette exploration des valeurs. C'est une moraliste, quelque part, Nadine Gordimer. Donc elle est très attachée au parcours individuel des personnages. Ce n'est pas André Brink qui, lui, a une vision plus épique, un autre écrivain blanc, afrikaner, lui. Ce n'est pas non plus Coetzee, un autre écrivain d'origine afrikaner, qui, lui, est plus dans la philosophie ou le mythe. Elle, c'est toujours au plus près des itinéraires personnels, avec des questionnements sur la société.
Welcome to Africa, lady. If it's your first time in the concrete jungle, just sit back and relax. Everything is going to be okay.
Il n'était pas possible d'assurer la maison, la piscine, la voiture contre les risques d'émeutes. Il y avait des émeutes, mais elles survenaient en dehors de la ville, là où s'entassaient des gens d'une autre couleur. Il n'y avait donc rien à craindre, disait le mari à sa femme. Mais pour lui faire plaisir, car il l'aimait beaucoup, et l'on brûlait des autobus, on lapidait des voitures, la police tirait sur des écoliers dans ces quartiers hors de portée des yeux et des oreilles de la banlieue, il fit installer un portail à commande électronique.
Son rapport à la criminalité du pays, elle-même a été victime d'un cambriolage violent, mais elle disait « je ne vais pas installer des grilles, des barreaux pour vivre dans une nouvelle prison ». On lui a volé son sac aussi dans la rue, donc elle était une cible comme d'autres, une blanche identifiée comme potentiellement riche. Comment est-ce qu'elle négociait son engagement personnel et sa vie au quotidien?
Figurez-vous que je me trouvais à Johannesburg, j'étais invité chez elle le lendemain de ce qui lui est arrivé. Et donc, elle m'a chargé d'être à l'entrée et d'écarter les voitures, de dire « s'il vous plaît, ne venez pas m'embêter, tout va bien ». Elle avait été enfermée dans un réduit avec sa bonne et elle avait vraiment seulement mal au doigt parce qu'on lui avait arraché sa bague. Ça lui c'était embêtant. Et elle était secouée. Elle a quand même reçu une de ces personnes qui était un ami écrivain noir. Et je les ai vus pleurer dans les bras de l'un de l'autre en disant « bah oui, c'est la société d'aujourd'hui, on ne s'était pas battu pour ça ». Mais elle ne voulait pas faire de son cas un truc particulier. C'est vrai qu'elle n'était pas hyper protégée et que les cambrioleurs avaient sauté par le biais des murs des maisons voisines, ne savaient pas du tout chez qui ils étaient arrivés.
Couverts par les clameurs des harpies électroniques, les cambrioleurs sciaient les barreaux d'acier et pénétraient à l'intérieur des maisons où ils dérobaient les chaînes stéréo, les postes de télévision, les magnétoscopes, les radios et les caméras, les bijoux, les vêtements. Et parfois, ils dévoraient toutes les provisions du réfrigérateur ou, s'ils en avaient le toupet, s'attardaient pour boire le whisky dans le salon ou le patio. Les compagnies d'assurance ne remboursaient pas le pur malt. Et la perte semblait plus douloureuse encore aux propriétaires quand il se disait que les voleurs n'étaient même pas capables d'apprécier ce qu'ils buvaient. Un soir, pour endormir le petit garçon, sa mère lui lut un des contes de fées du livre que lui avait donné pour Noël la vieille et sage sorcière. Le lendemain, il tira une échelle, la posa contre le mur. Les anneaux du tunnel brillant étaient juste assez larges pour permettre à son petit corps de s'y faufiler. Lorsque les premières lames de rasoir se plantèrent dans ses genoux, ses mains, son visage, il hurla et, se débattant, s'enfonça plus profondément dans le piège. Le mari et sa femme se précipitèrent dans le jardin, tandis qu'avec des scies, des cisailles, un hachoir, on extrayait morceau par morceau du rouleau de sécurité la masse sanglante du petit garçon.
Thank you.
Jeanine Gordimer est toujours présentée comme la papesse des lettres sud-africaines. C'est vrai, elle a dominé la scène sud-africaine, de notre point de vue en tout cas, de l'Occident. Elle a protégé aussi les écrivains noirs pendant une période où ils étaient souvent interdits de publication en Afrique du Sud. Elle les a protégés, mais il y a eu un effet pervers. Elle était tellement connue que dans nos pays, les grandes maisons d'édition la publiaient de préférence aux écrivains noirs. Et on a eu beaucoup, beaucoup de mal pendant les années 70, les années 80 et même les années 90 à faire entendre d'autres voix qu'elle voulait promouvoir, mais qui étaient presque empêchées d'exister par les choix que faisaient les grandes maisons d'édition françaises. Parce que Gordimer, c'était un nom connu, alors que des gens comme Mandalanga ou Serroté ou Tatankulu Africa ou Alex Laguma même n'étaient pas connus. Donc, elle a servi à les soutenir. C'était leur porte-voix. Et en même temps, par un effet pervers, en France notamment, elle a servi un peu à occuper le terrain et à les étouffer. Donc, c'est une contradiction là qui nous a vraiment beaucoup troublés. Hein.
Est-ce qu'à vos yeux, Nadine Gordimer, c'est une autrice africaine ?
Oui, bien sûr. C'est une autrice africaine et elle, je pense qu'elle le revendiquait. Elle disait « je suis une écrivaine africaine ». Il y a un discours qu'elle avait fait devant des étudiants au milieu des années 70 qui s'appelle « Que signifie pour moi être sud-africaine ?» Et elle dit, voilà, les Blancs n'étaient pas mon peuple parce que ce qu'ils voulaient être constituait l'objet de mon refus. Et elle dit, les Noirs n'étaient pas non plus mon peuple parce que, en fait, j'ai grandi dans un monde où ils n'existaient pas, ils n'étaient pas présents dans ma conscience. Et donc, elle disait, je ne peux pas dire mon pays en parlant d'Afrique du Sud si je ne peux pas dire mon peuple. Et ce n'est que... à partir de 94, quelque part, qu'elle peut de nouveau dire « c'est mon peuple et donc je suis africaine ». Et quelque part, c'est presque un titre qu'elle a lutté pour avoir.
Nkosi sikelela thina lusapho lwayo.
Nadine Gordimer, l'archiviste de l'apartheid, avec les traducteurs Georges Laurie et Jean-Pierre Richard, l'ancienne militante anti-apartheid Jacqueline de Reims, la romancière franco-rwandaise Beata Umumeyimeres, Liliane Nouvelle, professeure de littérature de langue anglaise à l'université de Poitiers, et Françoise Kral, professeure d'anglais et d'études postcoloniales à l'université de Nanterre. Texte dit par Anne Stephens. Toute une vie, coordination Anaïs Quin, assistée de Sylvia Favre, prise de son et mixage Manu Couturier, réalisation Séverine Cassard, une émission proposée par Michel Pomaret.
Retrouvez toute une vie, ses podcasts et ses bonus sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.